Bon. Il y en a qui désirent m'entendre botter les derrières. C'est comme ça que ça fonctionne. Du lundi au vendredi, wake up le show. Hey, on vient d'apprendre une nouvelle de dernière minute, là. On va couper ça tout de suite, là. Bon, on va fermer la trame right now. Eh bien, croyez-le ou non, on vient d'apprendre que la statue de la liberté, elle était bel et bien nue en dessous de sa toge. OK, un peu un moment de folie, désolé. Pour tout de suite, peut-être que vous avez déjà remarqué de votre côté, on a justement quelqu'un de marque qui s'amène ici. J'espère qu'on va être capable de brouiller comme il faut sa voix ce coup-ci. Hein? Super résistant est au bout du fil.
Bonjour tout le monde, vous m'avez vachement manqué.
Ouais!
C'est ma rentrée, je reviens, on va poter des culs tous ensemble. Amis auditeurs, je suis de retour.
C'est le cas de le dire, cher super résistant, comment allez-vous?
Eh bien écoutez, cher Ismaël, ça va vraiment bien. Salut à Jonathan, salut à tout le monde. Ça a été un été qui a été long, instructif, plein de belles aventures. Et voilà, je suis bien de retour aujourd'hui parmi vous.
On vient tout juste, ben, vous nous avez contacté et on vient tout juste d'apprendre que occidentaliste, et c'est pour ça qu'on vous a demandé, hey, s'il vous plaît, venez nous parler un peu vos impressions, etc., d'occidentaliste, comment vous percevez ça? Il y a une fermeture là, qui est en train de se préparer, qui est faite déjà à l'heure où est-ce qu'on se parle, ou enfin, peut-être nous en expliquer un peu plus. J'ai lu rapidement, qu'est-ce que vous avez détecté à travers les écrits?
Occidentalisme, donc, annonce sur sa page d'accueil que, grosso modo, ils vont prendre des vacances, c'est-à-dire que le site sera toujours accessible en tant que base d'informations, de choses, de base de données, en fait, mais ils dissolvent l'association qui gérait Occidentalisme, elle est dissoute, et Denis le dit très clairement, peut-être aussi pour abandonner, pour se consacrer un peu à des choses que pendant 5 ans de longs combats, ils avaient peut-être un peu délaissé, comme leur famille, leur job, leurs amis. Et je pense qu'après 5 ans, je peux comprendre, et tout ce travail accompli, je peux comprendre qu'il y ait une usure, une fatigue. Pardon, excusez-moi. Et peut-être, tout simplement, se dire qu'une bonne partie du travail qui était d'éveiller les gens a été faite. Alors c'est vrai qu'ils mentionnent des sites qui avaient un peu ouvert la voie, comme SSRK et autres, et qu'ils ont continué, le combat continue, mais peut-être pas forcément pour eux sous la forme d'un site internet, et tout le travail que ça nécessite.
Croyez-vous que il y a possibilité de gens qui leur ont peut-être dit, je sais pas moi, si vous cessez pas votre site, on vous ferme par les moyens financiers, la nouvelle méthode, au lieu un centre d'achat, la nouvelle méthode utilisée par certains individus qu'on ne nommera pas.
Je ne sais pas, je ne connais pas le dessous des cartes pour ça. Je pense qu'il faut croire ce que dit Denis Grasselin, et je pense que Grasselin, peut-être, je ne me rappelle plus comment on prononce. Je pense tout simplement que oui, il y a une usure du temps, et il le dit lui-même, il y a 5 ans, il s'était fixé comme but d'éveiller les gens à la réalité de l'islam. Je pense maintenant qu'effectivement, comme il le dit, la parole s'est quand même pas mal libérée, beaucoup de gens ont quand même conscience de la réalité de cette religion et de cette idéologie. Il faut savoir que tous ces sites internet, que ce soit Occidentalis, Franceco, etc., tous les sites que les gens consultent quotidiennement pour essayer de trouver de l'information reposent sur peu de monde, quand c'est pas parfois une personne seule. C'est-à-dire que il faut imaginer la masse de travail, les investissements que ça demande. Il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des sites commerciaux, ce ne sont pas des sites qui rapportent de l'argent, c'est des sites au contraire qui coûtent de l'argent et qui coûtent du temps, qui coûtent de l'investissement personnel, qui coûtent des heures et des heures et des heures de travail, de compilation, dans le cas d'Occidentalis, en plus avec une association, donc de militantisme sur le terrain et d'action de terrain. C'est un travail épuisant et c'est vrai que les responsables de ces sites mettent leur vie personnelle entre parenthèses, en tout cas leur vie personnelle en pâtissent. Leur vie professionnelle en pâtissent également, parce que tu peux pas être 100% dans un job et en même temps faire vivre un site 24/24. Tu vois, donc, je comprends quand il dit qu'il a envie de se consacrer un petit peu à sa famille, à son travail, à ses amis, je le crois 100%.
Ben, comme vous, là, super héros, super résistant, mais comment faites-vous pour justement tirer les ficelles du LibertyVox en même temps que vous me parlez?
La question ne se pose pas, je suis un super héros. On est un super résistant, enfin, comment peux-tu croire que je pourrais faiblir? J'ai ma cape magique, mon masque, j'ai plein de gris-gris qui me permettent au contraire de résister.
Ouais, super pouvoir, super résistant, voilà.
Toujours. Et forcément, derrière moi, il y a toute une équipe. Je ne suis pas tout seul, Dieu merci. Là, pour le coup, je ne serais pas super résistant, mais Superman. Si je devais gérer tout le site de LibertyVox, écrire les articles à la Une, m'occuper du forum, et parler avec toi, et puis écrire du courrier, répondre aux courriers des lecteurs.
Exactement, parce que vous avez quand même une bonne panoplie sur le LibertyVox.
Bon,
À la une, on regroupe, cela regroupe plusieurs personnes, pour ne nommer qu'André Dufour, et sans nommer les autres. Peut-être, pouvez-vous nous nommer tous ceux qui écrivent à la une?
Allez-y. Je peux complètement le faire. La liste est longue depuis mai 2005, qui fut notre première mise en monde, enfin, j'allais dire mise en monde, notre première parution.
Attendez, là, vous êtes en train de... Monsieur Résistant, vous êtes en train de me dire que c'est en 2005, mai 2005, que vous avez débuté, c'est bien ça?
Oui, 1er mai 2005.
Ok.
Voilà. Donc, dans les gens qui ont rédigé des articles, Alexis Cosician, André Dufour, Anne-Marie Delcor, Arroy Lejeune, Charles Alger, Claudine Pietri, David Bescon, David Davidovitch, Elie Sévenin, FFL... François Médioni, François Sategène, Guy Millière, Jacques Pietri, qui malheureusement nous a quittés, à qui je rends hommage à présent, Jean-Gérard Lapacherie, Joachim Velokias, John Dalig, José Melchior González, je vais en oublier, heureusement que j'ai une liste, Laila Fergui, Louis Chagnon, Martin Birnbaum, qui a rejoint LibertyVox depuis peu, Michel Chaumont, Nicolas Pomereux, Neil Rapoleur, Paul Landau, Pavel également a écrit des articles, Roland Dajou, Flamand Brodovitch, Simon Freidenreich, Simon Pilcher, Thomas Sauveur et Yolande Bresson. Tu vois, ça commence à faire du monde. C'est-à-dire que cette petite poignée d'auteurs du début, où il y avait effectivement André Dufour, Anne-Marie Delcambre, Michel Chaumont, Nicolas Pomereux, enfin, cette petite poignée d'auteurs qui étaient à l'origine de LibertyVox, la famille a grandi, d'autres gens ont rejoint le groupe. Et j'espère qu'on est encore là pour de longues années, ou en tout cas pas trop longues, parce que j'aimerais bien que la victoire arrive un jour, même si j'en doute.
Parce que avec aujourd'hui, ce qui vient de vous tomber sous les yeux, Occidentaliste, je l'ai aussi sous les yeux maintenant, ferme, est-ce que c'est décourageant ou encourageant d'une certaine façon de voir comment devrions-nous percevoir la fermeture d'Occidentaliste?
C'est pas une bonne nouvelle, parce qu'une voix résistante qui s'éteint momentanément, en tout cas, c'est jamais une excellente nouvelle. Maintenant, on peut le voir aussi de façon positive et se dire que le travail accompli par Occidentaliste et d'autres a été vraiment un gros travail d'éveil des consciences, et que ce travail est quand même grandement accompli. Peut-être que des gens ne seraient pas venus à écouter Rockick ou à lire LibertyVox si des gens comme Denis n'avaient pas défriché le terrain, et des gens avant lui, comme David Bescon ou autres, n'avaient pas grandement défriché justement cette route. Donc, il ne faut pas voir les choses négativement, il faut se dire que il faut accepter ce que dit Denis, c'est-à-dire que bon, il y a un gros travail qui a été fait, il y a une forme d'épuisement aussi, que je comprends complètement. Mais il y a d'autres sites qui existent, encore une fois, c'est pas pour tirer la couverture vers LibertyVox, mais LibertyVox existe, il y a toujours Claude Reichmann qui continue ses chroniques vidéo, il y a toujours l'excellent blog de Gérard Pince, il y a toujours, les sites sont très très nombreux, il y a Bafoued, il y en a quand même beaucoup sur la toile. Maintenant, est-ce qu'on a une influence suffisante pour faire évoluer les choses et les consciences? Je ne sais pas, mais il faut se dire que les quelques milliers de personnes qui lisent un article et qui comprennent quelque chose et qui tout d'un coup qui ont peut-être une petite lumière qui apparaît, ces quelques milliers de gens qui vont relayer l'information auprès de leurs proches, ça finit par faire des petits ruisseaux qui font des grandes rivières et des rivières qui font des fleuves, etc. Il faut voir les choses positivement. C'est pas forcément une défaite qu'Occidentaliste arrête.
Ok. Mais autre question. on a en ce moment, superintendant, une commission sur les accommodements raisonnables, OK? Et je me demandais, est-ce que ça s'est déjà produit une commission similaire de ce que nous avons de votre côté ou absolument pas?
Non, nous, on n'a pas besoin de commission. Nous, ça a été un travail très, très patient pour arriver au résultat absolument catastrophique que nous connaissons. On n'a pas une commission sur les accommodements raisonnables. Les accommodements raisonnables se font malgré tout, malgré nous et contre nous, quotidiennement. C'est-à-dire qu'on cède à la loi commune, on aménage la loi commune pour toujours la même chose, parce qu'il ne faut pas se leurrer. On aménage la loi commune uniquement pour un certain groupe religieux qui est le groupe, on va dire, carrément l'islam. On va pas se voiler la face. Il n'y a pas d'accommodement raisonnable en France pour les émigrés d'origine yougoslave. Tu vois ce que je veux dire?
Oui,
on accommode pour les gens d'origine d'Afrique du Nord, pour les Africains. Alors ça s'appelle pas accommodement raisonnable, mais le résultat est le même. C'est-à-dire, finalement, la disparition petit à petit d'une population d'origine qui petit à petit est remplacée par une population de plus en plus nombreuse, d'une culture qui n'est pas la nôtre, d'une population qui rejette notre culture, qui rejette notre histoire, qui rejette nos idéaux, et qui rejette tout ce que nous pouvons représenter finalement. Et l'accommodement raisonnable, si tu veux, c'est plutôt nous qui sommes obligés de nous accommoder de coutumes qui ne sont pas les nôtres et d'une idéologie totalitaire qui n'est pas la nôtre. Je n'ai rien contre les Arabes, je n'ai rien contre les Africains en tant que tels. J'ai contre une culture et une idéologie qui a pour vocation de nous faire disparaître.
Ouais.
Alors, je dis attention au Québec, attention au Canada. C'est parce que vous cédez sur ce que vous êtes et sur vos valeurs et sur vos propres lois que vous risquez tout simplement de disparaître. Parce que par le simple jeu démographique, ce qui est aujourd'hui peut-être pas, ce qui ne représente pas aujourd'hui une énorme pression, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, vous allez être submergé. Et là, il n'y aura plus d'accommodement raisonnable pour qu'un Québécois bontain, catholique, francophone puisse survivre en tant que tel.
Ouais.
Le Canada que j'ai connu il y a maintenant, parce que je suis très âgé, il y a maintenant,
il y a maintenant
30 ans où tu pouvais laisser ta voiture avec les clés dessus, où les gens étaient sympathiques, accueillants, peut-être trop naïfs, n'existe plus et ne peut plus exister parce que les populations que vous importez ne respecteront jamais ça. Les populations que vous importez méprisent votre façon d'être, votre façon de vivre, ce à quoi vous croyez. Les populations que vous importez méprisent absolument tout ce que vous pouvez représenter et ne veulent absolument pas s'assimiler à ce que vous êtes.
Superiste, on a eu une... Juste pour vous donner une idée d'à quoi ressemblent les accommodements, la commission sur les accommodements raisonnables ici. Hier, ça se passait à Sept-Îles, un petit coin de pays, peu importe, que vous avez peut-être jamais entendu parler. Une petite région, là, dans le coin de la grande province de Québec.
Près du lac Saguenay?
Non.
Je pense.
c'est pas grave. Dans le fond, il y a quelqu'un hier, un Québécois, et qui a dit que la religion des musulmans était rétrograde. Est-ce que c'est raciste de dire rétrograde?
Non, c'est une analyse malheureusement pertinente.
Mais
une religion, encore une fois, ne peut pas être autre chose que rétrograde. C'est une religion qui est née au fin fond du désert d'Arabie au 7e siècle, après Jésus-Christ. Je précise, après Jésus-Christ, 7 siècles, toi, à peu près, quelques milliers d'années après le judaïsme, c'est une religion qui est par nature totalement figée, qui ne peut pas évoluer, puisque la parole du prophète est la parole de Dieu. Donc, ce qui est écrit dans le Coran est parole de Dieu et ne peut pas évoluer. Donc, c'est forcément figé dans une époque, il y a 14 siècles, qui n'est forcément pas... celle que nous vivons aujourd'hui, j'enfonce les portes ouvertes, c'est une vraie lapalissade, mais qui est une vision du monde dans un endroit précis, à une époque précise, il y a 14 siècles. Et cette vision est totalement figée. Figée dans son droit, figé dans ses croyances, figé dans son dogme. Comment veux-tu dire autre chose que rétrograde ? Le véritable conflit de cette religion, c'est le conflit avec la modernité, c'est-à-dire d'avoir des populations, comme disait Anne-Marie Delcambre, en pleine schizophrénie, ce qu'elle appelait dans son livre la schizophrénie d'Islam, c'est-à-dire des gens de culture musulmane confrontés et aspirant à la modernité, mais confrontés à un texte totalement figé, totalement rétrograde, et ça crée une véritable schizophrénie, si tu veux, un grand écart entre un texte et le réel. Donc non, il n'y a rien de raciste à dire que c'est rétrograde.
Ah. Eh bien, hier... Celui qui siège avec nommé Gérard Bouchard, un intellectuel, et aussi Charles Taylor. Hier, Charles Taylor n'est pas présent car cette commission nous coûte plus de 5 millions de dollars canadiens. Je ne sais pas combien en euros ça peut se retrouver à être. J'ai l'impression que ça doit être aux alentours de 3 millions d'euros ou quelque chose comme ça.
Oui.
Gérard Bouchard a dit que c'était un propos raciste et il a fait sortir l'individu à l'extérieur de où se tenait la commission en question. Il l'a fait sortir par les agents de sécurité en disant qu'il était d'une méchanceté terrible et qu'il était raciste comme personnage. Incroyable. Et ça commence bien, n'est-ce pas, super hésitant?
Ça commence d'autant mieux, si tu veux, que le verre est dans le fruit de l'origine de cette commission. Au sens où, si d'emblée, on exclut... quelqu'un pour simplement dire que l'islam est une religion rétrograde, ça veut donc bien dire que cette commission des accommodements raisonnables n'est là que pour une seule chose, vous faire passer la pilule d'accommodement envers l'islam, principalement. Je ne dis pas uniquement, mais principalement, parce que tu as aussi des groupes juifs qui vont, à un moment donné, faire pression pour obtenir des accommodements, pour avoir des congés le Shabbat, ou des choses comme ça. Mais tu as les sikhs, on en avait longuement parlé au moment de l'accord du port du Kirpan dans les écoles. Donc cette commission n'est là que pour ça, ne vous leurrez pas, amis québécois. Cette commission sur les accords, les accommodements raisonnables n'est là que pour vous faire tolérer l'islam. C'est-à-dire que l'islam est incompatible avec vos lois, est incompatible avec tous les idéaux démocratiques, donc ça va être les idéaux démocratiques et vos lois qui vont se mettre, si tu veux, qui vont abaisser leur champ pour pouvoir se mettre au niveau de l'islam. Petit à petit, ça prépare le chemin à la charia. Parce que rien ne s'arrêtera. Ça ne s'arrêtera pas. Chaque bout de territoire conquis est un territoire acquis. Chaque droit conquis est un droit acquis. Ils vont pas s'arrêter en si bon chemin. Tu crois quoi? Qu'ils vont s'arrêter aux cantines halal et au port du voile? Non. Petit à petit, ils vont dire que...
Mais...
qu'ils veulent un accommodement raisonnable avec la loi en général.
Exact.
La loi ne correspond pas...
Mais super hésitant. Comment se fait-il, vu qu'ils sont... Moi, c'est ça que j'ai beaucoup de misère à saisir ce petit bout-là. C'est ce qui fait de moi quelqu'un qui peut-être est plus lent que la norme. Et, bon sang, ils sont minoritaires. Et étrangement, le directeur des élections générales fédérales a décidé d'accepter que les gens puissent venir voter voilés. Alors, s'ils sont minoritaires ici au Canada, ils sont vraiment minoritaires, comment se fait-il qu'ils réussissent ou qu'il y ait des gens de hautes instances politiques, comme le directeur des élections générales, qui décident comme ça, oui, on va laisser les femmes voilées, bien sûr, c'est pas juste la burqa, mais c'est vraiment le niqab, qui puissent venir avec deux pièces d'identité, comme ça, se présenter dans les élections partielles qu'il y a eu, qui viennent de se terminer, là, soit dit en passant, les gens pouvaient venir voter voilées. Et bien sûr, il y a eu un vent de protestation sans rien que cela change.
Alors, j'ai deux pistes. J'ai d'abord la piste honnête, c'est-à-dire la bêtise. Nos idéaux de respect de l'autre, de tolérance, de liberté, mis entre les mains d'abrutis, donnent ce genre de résultat également. C'est-à-dire soyons tolérants, y compris envers les intolérants. Soyons tolérants même au prix de notre disparition. Soyons tolérants même au prix d'entorse à la règle. Ça serait la version quasi optimiste. Ce à quoi je crois plus profondément, c'est où est l'argent. Si tu trouves la piste de l'argent, tu trouveras des réponses. C'est ce qui s'est passé en Europe, c'est ce qui se passe encore en Europe, c'est ce qui se passe en France. Si tu as la chance un jour de visionner la dernière cassette vidéo, la dernière vidéo enregistrée par Papon, qui est un ministre de la République, ancien préfet de police, qui avait eu des...
Okay.
des problèmes qui avaient eu un procès par rapport à une histoire de déportation pendant la guerre, mais peu importe, c'est pas le propos. Papo, dans sa dernière vidéo, parle de valises d'argent détournées par Jacques Chirac. Alors, écoute bien. Ces valises d'argent, ça se passe sous le général de Gaulle. Ben, ces valises d'argent, elles viennent d'où ? Ce sont des valises d'argent qui viennent d'ambassades arabes. Et cet argent, bien évidemment, Jacques Chirac en a détourné un petit peu. Et tout ça pour dire que donc, dès Charles de Gaulle, des valises d'argent d'ambassades arabes arrosaient les partis politiques français, y compris les partis politiques comme le parti de Charles de Gaulle. Donc, trouve la piste de l'argent, trouve qui finance. On apprend, par exemple, là récemment, que le parti travailliste anglais avait été largement financé par des fonds arabes. Comment veux-tu que le parti travailliste anglais s'oppose à l'islamisation de son pays? Je mets ma main au feu qu'au Canada, c'est le même problème. Ma main au feu que les principaux protagonistes et tenants de ces accommodements raisonnables sont des gens qui sont corrompus d'une façon ou d'une autre. Cherche les pistes financières toujours dans ces histoires. Parce que ce n'est pas normal, effectivement, qu'un si petit groupe d'hommes arrive à faire autant pression. Il y a forcément des intérêts financiers quelque part. Il y a forcément de la corruption quelque part.
C'est clair, hein? C'est clair, j'ai vraiment cette impression-là, moi aussi, super hésitant, que quelqu'un, quelque part, qui a versé le gros montant, un beau gros montant juteux, au directeur en question, qui faisait croire aussi que non, je ne peux rien y faire et je ne ferai rien. En plus, là, le directeur des élections générales fédérales peut, avec son pouvoir, changer ce qu'il prend comme décision, soit dit en passant. Il peut très bien réagir en disant « Oh, mon Dieu, il y a un tollé de protestation. » Alors, il peut, sans aucun problème, à la suite de la réaction du public, c'est-à-dire revenir sur sa décision et changer. Et là, au contraire, cette fois-ci, contrairement au directeur des élections provinciales, qui avait reculé, lui, le directeur des élections fédérales, non. Il a décidé de continuer de l'avant et à remettre, si on veut, hein, pour utiliser cette expression-là, la patate chaude sortie tout droit du four dans les mains des politiciens en disant « Attention, là, c'est à vous de changer la législation et de faire en sorte que, bien entendu, ça ne se reproduise plus ce genre de situation-là, c'est-à-dire... »
Bien sûr, mais ces affaires de corruption ne sont pas forcément des enveloppes d'argent données de la main à la main. C'est, par exemple, des journaux qui sont achetés et sont haussés par voie de publicité, parce que comme dans le New York Times, ou dans le journal Le Monde, ou dans d'autres journaux en Angleterre ou ailleurs, parce que des gros capitaux arabes achètent des pages de publicité entières dans la presse, parce que des gens comme aux États-Unis, l'ancien président Jimmy Carter, qui par exemple est un corrompu, totalement corrompu par l'argent arabe, et tu le sais, à mesure que l'histoire avance, t'apprends des choses énormes. Apprends des choses énormes comme ça. Rendez-vous dans 15, 20, 30 ans, quand des archives sortiront, quand des informations sortiront. Je te mets ma main au feu que les accommodements... Il y a une partie idéologique de ces espèces de crétins, de gauchistes qui veulent absolument détruire votre société. Mais plus loin que ça, il y a des histoires d'argent. C'est obligatoire. Argent direct ou argent indirect. Tout le phénomène de rabia est basé sur l'argent. C'est-à-dire que nous sommes... Le pari de l'islamisation de l'Europe et de l'envahissement de l'Europe et la substitution de population qui est en train de s'y opérer, ce sont des histoires de capitaux. C'est-à-dire des histoires de je te donne de mes émigrés et je te donne en échange tu auras des contrats. Des contrats, donc tu pourras me vendre de l'armement, tu pourras me vendre ceci, tu pourras me vendre cela et je te vendrai du pétrole. La belle affaire. Voilà,
parce que, étrangement, depuis que les conservateurs sont à la tête, au pouvoir, parce que pendant 13 ans, faut que je vous le dise, c'était les libéraux qui dirigeaient le Canada. Et là, ils ne le sont plus. Et étrangement, depuis que ce sont les conservateurs, il n'y a plus de ce genre de, comment dire, de courbettes politiques. Hein? De cascades politiques de la part de nos politiciens qui sont à la tête du Canada en ce moment, comme Stephen Harper, pour justement dire non, c'est plus pro. On sent qu'il y a comme un côté pro-américain. Nous avons envoyé des soldats en Afghanistan, par exemple, et c'est hautement contesté, étrangement, par les libéraux, par les péquistes, par le Bloc québécois, par les néo-démocrates. Tous ces partis sont... Le Parti libéral, qui est pourtant un soi-disant parti de centre-droit ou quelque chose comme ça, et pourtant, on sent qu'ils vont vraiment vers la gauche, là. on sent pas du tout qu'il y a des gens au niveau de l'immigration qui ont reçu des pots de vin et qui font pression pour justement laisser entrer n'importe qui comme ça au pays. Alors, ce que j'ai de la misère à saisir, c'est que alors le directeur des élections générales fédérales, lui, je m'en fous complètement de la population, et on sent que c'est ça, super hésitant, c'est qu'il y a de l'argent en jeu, de la grosse argent.
Évidemment qu'il y a de l'argent en jeu. Évidemment. Je peux pas croire qu'il en soit autrement. Je veux bien croire qu'il y a une partie d'idéologie. Tu sais, en France, par exemple, on a tout souvent de gens de gauche qui veulent absolument nous voir disparaître en tant que tels, si tu veux, nous voir expier tous nos crimes. C'est une façon quasi révolutionnaire de nous voir disparaître. Il y a toujours des histoires d'argent. Toujours. C'est une certitude. S'il n'y avait pas autant de pognon à faire avec les pays arabes, s'il n'y avait pas autant de pétrole, il n'y aurait pas ces accommodements raisonnables. Tu peux en être certain.
Et là, ce qui se produit en ce moment, super hésitant, c'est qu'en Alberta, on a du pétrole. À Terre-Neuve, près du Québec, il y a des sources de pétrole extraordinaires. Et aussi, en Antarctique, le Canada est sur le point d'avoir une des masses les plus importantes, OK, de toute l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire 25% de ce qui existe en pétrole est là. Et en ce moment, disons que ça fait peur à beaucoup de pays comme l'Iran, l'Irak, qui n'ont pas ces sources de pétrole-là. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus visé. Et dernièrement, je dois rappeler aussi qu'on a eu des menaces que nous serons les prochains à être victimes d'attentats terroristes au Canada. Il n'y a jamais rien pour rien, super résistant, qui se produit là.
Non, s'il n'y a pas l'argent, il y a la peur. Ça, c'est... Effectivement, beaucoup de gouvernements occidentaux cèdent avant même qu'on entende quoi que ce soit, par peur des attentats, par peur de la violence, par peur de... En France, par exemple, par peur de la guerre civile, c'est parce qu'ils savent très bien la réalité démographique de ce que pèse l'islam et l'immigration en France. Donc, par trouille, si tu veux, on préfère céder d'avance à toutes les demandes. Comme ça, c'est plus simple. Maintenant, au Canada, le fait de laisser rentrer de façon inconsidérée tous ces gens d'origine musulmane, entre autres, parce qu'il n'y a pas que l'islam qui pose problème au Canada, de cette espèce d'immigration quasi incontrôlée et de sources quasi uniques, va vous amener de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est-à-dire que on vous promet finalement, sans vous le dire, un avenir similaire au nôtre, c'est-à-dire que la population du Canada ou du Québec par exemple va disparaître. Ça paraît énorme, ce que je suis en train de te dire.
Non, au contraire, c'est pas énorme. Juste le Kirpa, c'est là que tout a commencé.
Ça commence aussi avec les abrutis du Parti québécois qui, au nom d'une certaine francophonie, décident que de favoriser l'émigration de populations soi-disant francophones qui viennent, grosso modo, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de pays arabes ou de pays africains. Voilà le premier péché. C'est-à-dire qu'au nom de la défense d'une certaine francophonie, et pour emmerder les anglophones, faisons venir en masse des francophones. Ils viennent d'où? Ils viennent pas de France. Tu vois, c'est bien beau de faire venir des bacs moins 5 d'Algérie. Oui, c'est bien. Ça coûte juste un petit peu d'argent à vos systèmes sociaux. Donc petit à petit, on nous a mis une population de substitution, vaguement francophone, on va dire vaguement, qui en plus de toute façon préfère le vin en Ontario, tant mieux pour les Québécois du reste, et petit à petit, vous allez disparaître en tant que Québécois. Les accommodements raisonnables, finalement, ça ne fait que préfigurer ce qui sera une obligation et qui ne sera plus du tout raisonnable un jour, c'est-à-dire l'adaptation des lois canadiennes aux lois de l'islam. Parce que ne nous leurrons pas, Israël, c'est bien l'islam en bout de ligne. Regarde les statistiques démographiques. En bout de ligne, c'est l'islam.
Et rien d'autre.
Mais rien d'autre.
Parce que je fais...
C'est pas pour savoir si les Chinois peuvent fêter leur nouvel an dans les rues.
Monsieur Kwang, super résistant, je pourrais vous envoyer n'importe quand l'entrevue que j'ai déjà eue avec Monsieur Kwang.
Bien évidemment. évidemment.
Mais oui.
Avec la société de limousine qui s'était fait emmerder, bien évidemment. Mais on est bien tous d'accord, c'est pas ça l'accommodement raisonnable. C'est pas les populations asiatiques qui sont visées dans l'accommodement raisonnable.
Eh non.
D'accord. Sont exclusivement visées dans les accommodements raisonnables. Qu'est-ce qui pose problème au quotidien? Si ce n'est l'islam, majoritairement l'islam. Tu vois, c'est pas les quelques barbus juifs qui nous ont emmerdé la vie avec l'histoire de la YMCA l'année dernière. Même si, de toute façon, il faut canaliser tout le monde. Parce que tant qu'on mettra le religieux, qu'on mélangera le religieux et le politique, on aura ce genre de situation. Tant qu'on ne renverra pas le religieux là où il doit être, c'est-à-dire dans les consciences et nulle part ailleurs, évidemment qu'il y aura ce genre de choses. Mais le problème majeur, le vrai problème de société qui se pose au monde occidental aujourd'hui, c'est ces vagues migratoires en provenance quasi exclusivement d'Afrique du Nord et d'Afrique noire, et bientôt se posera aussi le problème d'émigration en provenance d'Asie.
Et super-existant.
On nous fait croire, en essayant de détourner le problème ailleurs que sur les gens, que sur l'islam, que sur les gens arabes et qui se sont convertis à l'islam, qui sont maintenant musulmans, on nous fait croire en prenant des têtes comme, par exemple, une Rwandaise qui disent que cette Rwandaise, qui est d'origine, bien sûr, Valentine Muscat-Safari, c'est bien ça, qui est débarquée dernièrement à l'aéroport, OK? Et on nous fait croire, elle nous fait croire que les immigrants, une mine d'or non exploitée!
Ouais, vachement. Une mine d'or pour nos comptes sociaux, ouais. Parfait. On revient qu'en France, le grand débat, c'est sur ce qu'on appelle le regroupement familial. C'est-à-dire, tu as quelqu'un qui est immigré légalement, en général ou pas, en France, il y a de la famille, petit ou non, on va la faire venir. Bon, ça a été tranché en 74 par, ou 75, je ne sais plus, par Valérie Cerdessin et Jacques Chirac. Ils ont autorisé ce regroupement familial, ce qui fait que la majeure partie de l'immigration est une immigration due à ce regroupement familial. Donc des gens qui arrivent, cette mine d'or n'a pas de diplôme, est incompétente en tout, et vient finalement pour prendre des aides sociales en tout genre, qui pèsent massivement sur nos comptes. Comme il s'appelle, notre président Sarkozy propose en tout cas que, pour être certain que les gens qui viennent au nom du regroupement familial soient bien de la famille de l'immigré, de faire un test ADN. Tu verrais la levée de boucliers contre cette mesure. On parle de racisme, on parle de honte absolue, on parle de tout ça. C'est-à-dire qu'on préfère, à la limite, que ces gens continuent à venir, même s'ils ne sont pas de la famille, c'est pas grave. Notre vocation, c'est de disparaître. Notre vocation, c'est d'être envahis. Voilà. Donc, moi, j'ai une réponse à ça qui est simple. C'est qu'on ne faisons pas de test ADN. Arrêtons ce regroupement familial, tout simplement. Ça serait bien plus simple et ça évitera de crier au racisme. Donc, mais si on arrête le regroupement familial, les gens vont crier au scandale. Nous sommes, comment te dire, nous sommes co-responsables. Petite anecdote, quelqu'un dans le métro à Paris voit une agression. Cette personne intervient, c'est une personne âgée qui se fait agresser par un Africain. Il intervient, il arrive, il finit par se battre avec l'Africain qui a agressé cette personne âgée. Il est un peu massacré. Et les gens dans le métro qui n'avaient rien fait pour défendre cette personne âgée s'en sont tous pris à ce type en gueulant, mais arrêtez, mais vous êtes dingue, mais vous lui faites du mal, arrêtez. Ben voilà un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que toute mesure, c'est-à-dire que les gens sont morts de trouille, ils voient bien le problème qui arrive, mais dès que quelqu'un va intervenir, dès que quelqu'un veut prendre la moindre mesure pour endiguer ce phénomène, c'est « mais arrêtez, mais c'est scandaleux, mais non, mais vous êtes fous, arrêtez !» Voilà, donc il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, comment dirais-je, s'il n'y a pas de volonté politique.
Ben, à ce moment-là, à ce moment-là, super-existant, je reviens sur une entrevue que j'ai déjà eue avec Maurice Génantec. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? S'enrôler dans l'armée et aller combattre ou carrément devenir mercenaire et se monter un commando pour faire...
Se battre contre qui? Se battre où? La ligne de front n'est pas... Tu t'engages pas pour aller battre en Europe contre les nazis. Sur une ligne de front à peu près établie avec des armées qui bougent, et puis quand l'armée nazie est vaincue, on peut tout reconstruire, et puis la démocratie triomphe. Non, C'est fini cette époque. La guerre, elle est multiforme, elle est multifront. Le front, il est carrément dans nos rues, le front, il est autour de nous.
Ouais.
Le front, il est chez toi au Québec, il est à Paris, il est à Bruxelles, il est partout le front, il est dans ce type qui est viré de la commission pour avoir dit simplement que c'est une région rétrograde. Il est dans le père Samuel qui passe en procès simplement pour avoir dit des vérités sur l'islam. Il est dans l'islamiste qui menace Al-Qardaoui, qui menace Robert Redeker, mais qui peut continuer à vivre tranquillement quant à lui. Il est au quotidien. Il est dans notre acceptation d'une cantine halal. Il est dans le menu du quotidien. Le menu du quotidien, c'est pas très beau comme phrase, mais on s'est compris. Il est dans le détail, il est dans le tas de choses, C'est plus uniquement une guerre, il y a des guerres à mener.
Il va falloir trouver à un moment donné Superistan. Je veux bien croire là, qu'il est où devrions-nous attaquer exactement pour faire mal à ce type de conneries qui est nommé l'islam. Où devrions-nous faire péter au moins la fondation, commencer à affaiblir la base qu'elle s'est construite.
Encore faut-il qu'il y ait une volonté politique de l'affaiblir et qu'elle soit commune. C'est bien,
la volonté politique, il n'y en a pas. Ça, c'est garanti. Il n'y en a pas. Alors là, on se retrouve à parler de faire justice soi-même.
Non, mais tu peux combattre. Le combat est multiforme. Tu peux effectivement combattre en Afghanistan les talibans, ça, c'est bien. C'est bien, il faut le faire. Tu peux effectivement combattre aussi Al-Qaïda en Irak, c'est bien, il faut continuer à le faire. Et apparemment, le général Petraeus a quelques bons résultats. Mais tu ne peux pas t'arrêter là. Cette guerre, elle est mondiale. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la Syrie. Il y a l'Iran, il y a l'Arabie Saoudite, nom de Dieu, en tête. Les Saoudiens continuent à financer Al-Qaïda, c'est ce qu'on attend. Et ensuite, ce combat, il est aussi au quotidien chez nous. Il est dans des actions de police, il est dans des actions de maintien de l'ordre, il est dans des actions d'infiltration, de justice. Et excuse-moi d'être aussi plus terre à terre, moi je prône également des éliminations ciblées. C'est-à-dire que quand un imam commence à déraper, moi, je suis pour qu'on l'élimine. Je suis même plus pour qu'on l'expulse. Je suis pour qu'on l'élimine. Je ne peux pas être plus clair. Je suis pour qu'on élimine toute personne mêlée de près ou de loin dans un groupe terroriste.
Ouais.
Élimination.
Ben, l'exemple de que je vous ai donné tout à l'heure concernant les accommodements raisonnables avec Gérard Bouchard qui a fait expulser quelqu'un concernant le fait de dire rétrograde.
C'est une défaite sans combattre. Voilà. Ce Gérard Bouchard a perdu la bataille avant même de s'être battu. Alors moi, j'appelle ça un traître, j'appelle ça un complice. J'espère pour lui que c'est par bêtise et par ignorance et que c'est pas par corruption, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
C'est grave, c'est très grave.
C'est grave, évidemment. Accepter que les gens de la commission qui n'ont pas réagi au fait qu'on vire, j'ai oublié son nom, excuse-moi, celui qu'on a viré parce qu'il a dit que l'islam était rétrograde. C'est dramatique. C'est-à-dire que cette commission ne sert à rien. Cette commission de la religion n'est plus possible si la critique d'une idéologie aussi barbare, aussi rétrograde, aussi hégémonique, aussi totalitaire n'est plus possible au Canada, alors à quoi ça sert? Acceptez de vous convertir tout de suite, ce sera infiniment plus simple. Il y aura moins d'attentats. Parce que c'est le choix, c'est ça le choix du Dimi, si tu veux, c'est d'accepter de céder, tu vas peut-être pouvoir rester catholique, Ismaël.
Étrangement, là, depuis 4 jours exactement, on nous envoie dans les journaux une enquête sur les pédophiles, comme pour détourner l'attention sur cette commission sur les accommodements raisonnables. On essaie de détourner le regard des gens vers autre chose, vers un autre problème qui pourtant on victimise énormément les pédophiles. Là, on essaie de regarder ailleurs que sur les accommodements raisonnables, on essaie de foutre les yeux ailleurs que sur cette commission qui coûte plus de 5 millions de dollars aux contribuables et à deux individus, un qui s'appelle Charles Taylor. Et est-ce que ça te dit quelque chose, la fondation John Templeton?
Non. Non, je sais qu'on a déjà parlé, mais non. Je connais pas.
Alors, t'es au courant d'abord que j'avais parlé que, justement, Charles Taylor a reçu 1,8 million de dollars?
Oui, j'avais entendu ça, ouais. Mais tu sais, quand tu dis détourner l'attention, nous avons, par exemple, en Europe, Jacques Chirac, lapsus, Nicolas Sarkozy, qui, dans son programme électoral, s'élevait contre l'entrée de la Turquie en Europe. À peine élu, Nicolas Sarkozy, fait à peu près tout pour que la Turquie puisse y entrer. Et pour lever, si tu veux, le dernier obstacle qui est de ne pas passer par un vote, un référendum pour un nouvel entrant dans l'Europe, il va faire en sorte, si tu veux, que de changer la loi pour qu'il n'y ait plus besoin de faire un référendum, c'est-à-dire pour encore faciliter l'entrée de la Turquie. Ce qui est un scandale. Je te rappelle qu'il y a 2 ans, il y a eu quand même un vote, un référendum où on a voté contre la Constitution européenne, mais apparemment tout le monde s'en fout. Toujours est-il que ce que nous sort notre ministre des Affaires étrangères, il nous sort qu'il va falloir entrer en guerre contre l'Iran. Non pas que je sois contre, je suis même pour. Je suis même pour les atomistes si nécessaire. Mais on sait très bien que la France n'a même plus de moyens de projection militaire pour aller se battre contre qui que ce soit. On a un seul porte-avions, ce porte-avions est en cale sèche pour un minimum 18 mois, plus les périodes d'essai à la navigation après. Enfin, pendant 2 à 3 ans, on n'a plus un seul porte-avions. On sait très bien que c'est une fanfaronnade. On sait très bien qu'il n'y a pas une réelle volonté politique d'aller se battre contre les Iraniens, ni de les empêcher militairement d'obtenir la bombe atomique. À quoi ça sert, si ce n'est, à un moment donné, dévier le débat sur autre chose, entre autres la Turquie.
Entre autres. Super Existant, je vous dis merci d'être venu.
C'est un plaisir pour cette rentrée.
Ouais. Et je tiens à vous dire qu'on se reparlera de sitôt, je l'espère.
Ah ben, j'espère.
Ouais. Si Dieu le veut.
tu sais comment me joindre ou me joindre. Et quant à Dieu, je ne le connais pas.
Merci Super Existant. Une bonne journée. Au revoir.
Aussi, au revoir.
Au revoir. Alors, c'était Super Existant que vous venez tout juste d'entendre. On s'arrête un petit instant. On revient tout de suite après ceci. Wake up, le show se poursuit. 9h21. On revient dans moins de 30 secondes. Non, laissez-nous à peu près 2 minutes pour décompresser, là, parce que je pense que ça nous craque. Moi, d'entendre des affaires comme ça, ça me craque de plus en plus de voir qu'il y a de la manipulation de la part de la commission de merde. De la commission de merde sur les accommodements. Moi, dire que la religion musulmane de l'islam, l'islam est rétrograde, il n'y a rien de raciste là-dedans. Et justement, c'est un cockhead, justement, Gérard Bouchard. Cockhead. Cockhead. Crise de tête de gland. OK? Puis je le dirai pas autrement. Il n'y a pas un commanditaire qui va m'apprendre à dire ça autrement. Un cockhead, c'est ça, man. OK? Quand là, toi, commanditaire qui investira ou qui a investi ici, me dira justement que ça lui cause pas de problème qu'un gars qui se fasse sacrer dehors parce qu'il dit le mot rétrograde et qui trouve ça raciste, vous avez un problème. Chers amis, votre islamisation du Québec vient de débuter à l'heure où est-ce que je vous parle en ce moment. Et depuis déjà un bon bout de temps. Et là, ça s'islamise à full pin. On va rentrer dans le mur. Restez là, on revient.
Regarde ça, Ismaël. C'est Élise Thibault et Alain Juppé. Hey, ils te font un petit coup.
Attends, pas pour longtemps.
Non, Ismaël.